Bonsoir. Plus d'un mois après la grève du personnel congolais, l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa fonctionne avec des journaliers. Les agents congolais en grève dénoncent les mauvaises conditions de travail dans cet hôpital sous la gestion d'un groupe indien, des licenciements illégaux, le manque de contrats de travail clairs et réclament le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Évariste Bayedi, représentant du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Monsieur Bayedi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Monsieur Osvald Manoana, bonsoir, monsieur Manoana.
Bonsoir.
Vous êtes inspecteur général du travail, également président de la commission de suivi et de conciliation. Polydor Tangeli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en matière du travail et secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvreux. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le personnel congolais de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa est en grève depuis plus d'un mois. Il dénonce les mauvaises conditions de travail, cela depuis leur engagement en avril 2014. Une situation que tente de résoudre le vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Selon le professeur Willy Makiachi, une commission tripartite est à pied d'œuvre pour tenter de trouver une solution. Seulement, les conclusions tardent à venir, comme l'explique Jacques-Yves Molima.
Le 22 mars 2014, le chef de l'État, Joseph Kabila, inaugure l'hôpital du cinquantenaire, créé par un décret du Premier ministre du 22 janvier 2013. Il s'agit donc d'un établissement public à caractère social, ainsi stipule le premier article du décret. Au dire du ministre de la Santé publique à l'inauguration, la gestion de l'hôpital est assurée dans le cadre d'un partenariat public-privé, gouvernement et le groupe indien Padiat Healthcare. Un partenariat scellé dans un contrat signé pour une durée de 25 ans à partir de mars 2014, d'après certaines sources proches du dossier. Dans ce contrat, le chapitre 4 parle des obligations des parties. En ce qui concerne par exemple le ministère de la Santé, à l'article 6 alinéa 1er, il s'engage à mettre à la disposition des gestionnaires le personnel requis pour remplir la mission assignée à l'hôpital. C'est ce qui justifie d'ailleurs le concours de recrutement organisé de février à juin 2013 par le gouvernement. 384 candidats ont été retenus à l'issue du concours. Ces personnels retenus et mis à la disposition du gestionnaire indien n'avaient aucun statut de fonctionnaire de l'État. D'après une source de l'hôpital du cinquantenaire, le calvaire des agents congolais commence à ce niveau, sans un statut défini pendant 3 mois. Ils ont travaillé sans contrat, jusqu'au jour où le gestionnaire leur brandira un contrat avec une entête de force sécurité, une société de sous-traitance.
Merci Jacques-Yves Molima et Évariste Bayedi, représentant du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Revenons dans les détails, vous revendiquez notamment les mauvaises conditions de travail. De quoi s'agit-il exactement?
Écoutez, les mois qui viennent de passer, d'abord merci pour l'invitation et je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs. Il s'agit ici d'un conflit de travail qui a pris énormément du temps, pour lequel nous sommes venus ici pour mettre quand même un point sur ce dossier. Alors, l'élément qui vient de passer, M. Jacques a tout expliqué, c'est-à-dire les grands problèmes, il s'agit ici d'un contrat de travail qui n'a pas de contrat, qui n'a pas de contour clair, un contrat de travail au contour flou, c'est-à-dire le gouvernement de ce pays a financé par le biais des 3 maisons d'experts un concours d'équipement. Alors, de quel nous faisons partie et nous avons été envoyés comme la première équipe pour ouvrir les portes de l'hôpital. Mais à notre grande surprise, 3 mois après, nous avons été surpris par les gestionnaires de l'hôpital qui nous présentent un contrat de sous-traitance, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix, soit vous les signez, soit vous partez. Et il a fallu du temps. Nous avons informé les autorités à différentes instances, mais curieusement, il y a eu un silence pour lequel nous ne savons pas comment expliquer. Et voilà, il fallait contenir cette situation jusqu'au jour où on ne pouvait plus contenir. Et voilà, ça s'est éclaté aujourd'hui.
Alors là, il s'agit du contrat de travail flou. Vous n'avez pas un statut clair,
exact.
En principe.
Exact.
Voilà, alors on parlait également des mauvaises conditions de travail, vous êtes maltraité, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe?
Alors, de par le décret qui a été évoqué par votre frère Jacques, c'est-à-dire que tout est décrit là-dedans. Nous sommes les travailleurs, nous sommes surtout les corps médicaux, médecins, infirmiers, laborantins, ingénieurs. Nous n'avons pas entré dans des détails du genre contrat avec le gouvernement, le monsieur. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la gestion de l'hôpital. Mais l'administration, en fait, c'est un problème. Il doit rendre compte à des gens avec qui il a signé le contrat. Le problème, c'est que nous sommes dans un trou, même dans une jungle, il y a des lois. C'est-à-dire chaque animal, même les animaux féroces, ils déterminent les territoires. Mais chez nous, c'est comme dans c'est pire même qu'une jungle. Il n'y a pas de loi. Les gestionnaires et le seul maître tout puissant, ils déterminent ce qu'il faut faire et voilà. Alors la situation dont nous décrions ici, c'est que il n'y a pas un statut. On déclare que l'hôpital appartiendrait au gouvernement congolais, mais les agents, on n'a aucun statut clair. Voilà pourquoi ce qui a poussé peut-être aux gestionnaires de nous brandir ces contrats de sous-traitance. Il est allé chercher une société de gardiennage pour l'amener, et c'était un contrat qu'on faisait signer aux gens sous pression. Je répète, soit vous les signez, soit vous quittez l'hôpital, ce qui n'existe pas.
Et donc, en d'autres termes, vous considérez que vous avez été l'objet d'une arnaque, d'une escroquerie?
Exactement, c'est pire même que ça, parce que ce qui s'est présenté, c'est vraiment une désillusion. Vous savez que l'hôpital du cinquantenaire, de par le décret qui l'institue, c'est une institution, entre guillemets, de niveau tertiaire. Et nous autres, nous avons abandonné nos institutions de provenance, croyant qu'on devait acquérir l'expertise indienne dont on nous a vanté tant.
Et trouver mieux en termes de rémunération.
Mais à l'heure actuelle, je suis en train vraiment de vous faire croire, parce qu'il y a de preuves que ce qui se passe est loin de ce que nous avons pu vraiment espérer.
Et de votre part, comment vous expliquez ce silence au niveau des autorités? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez posé le problème à plusieurs autorités sans réaction.
Alors, ce qui est étonnant, c'est ça. Parce que je peux compter à ce jour, dès 2014, je dois vous rappeler que l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa a ouvert ses portes un certain 5 avril 2014. De cette date-là jusqu'à aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de correspondances adressées à nos autorités. Peut-être qu'ils sont encore à la recherche des solutions, là, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, la situation a pris du temps, 2 ans et demi, il n'y a pas de suivi. Ni pour nous que le gouvernement a envoyé, et encore moins pour les restes. Les restes, là, c'est pas notre problème. Nous sommes juste au niveau du conflit. Alors, les silences, là, c'est vraiment un silence. On ne sait pas qualifier ça des coupables ou bien des complices, mais quand même, nous avons droit à savoir pourquoi les autorités se sont tues pendant 2 ans et demi sans nous accorder un seul statut ou bien mettre en place les structures qu'il fallait. Parce que c'était déjà déterminé que l'hôpital devait avoir les organes d'urgence. En parlant de ça, du conseil d'administration, ce qui n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui.
Merci. Osvaldo Manwana, vous êtes inspecteur général du travail, également président de la commission de suivi de conciliation. Monsieur l'inspecteur général, vous avez suivi Monsieur Bayedi. Vous qui suivez ce dossier, qu'est-ce qui se passe?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous en remercie beaucoup. Si je suis ici sur l'autorisation du vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale.
Effectivement.
Alors, il m'a demandé de venir répondre à votre invitation. C'était en date du 14 juillet 2016. Les travailleurs de l'hôpital du cinquantenaire ont écrit lettre à monsieur le ministre de la Santé publique. Et ils ont réservé copie à l'Assemblée nationale, au Premier ministre et au vice-premier ministre de l'Emploi et à monsieur le ministre de la Fonction publique et à monsieur le gestionnaire de l'hôpital cinquantenaire de Kitambo. Quand la lettre est arrivée, le 15 juillet 2016, le vice-premier ministre met les annotations d'urgence qu'il m'envoya pour que je descende vite à l'hôpital cinquantenaire. Et il était en congé. Sur ordre du président de la République, Et on m'a dépêché pour aller voir, constater la situation. Je suis arrivé sur le lieu. Après 20 minutes, le vice-premier ministre chargé de l'emploi s'est présenté. Nous nous sommes présentés le 2 août 2016.
Alors, quel a été votre constat en arrivant sur place avec l'autorité?
En arrivant sur place avec l'autorité, nous avons vu que les deux parties ne connaissaient pas la loi. Ils ne connaissaient absolument rien de ça.
Alors, commençons par la partie côté gestionnaire. Qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas de la loi? Et puis, on verra du côté des travailleurs.
Du côté gestionnaire, on lui a donné la parole. Et le vice-premier ministre chargé de l'emploi lui a posé la question pour savoir ce qui se passe. Et le monsieur nous a présenté des contrats de travail, beaucoup d'histoires, et on ne comprenait rien. Et après, j'ai soufflé l'autorité pour dire, en tout cas, ils sont dans l'irrégularité des documents relatifs à la main d'œuvre.
Ils sont dans l'irrégularité alors que tout ça a été fait avec la bénédiction du gouvernement.
Bon, ça, je n'entre pas sur la bénédiction du gouvernement en tant que technicien. Moi, je voudrais m'expliquer sur ce que nous avons trouvé sur le terrain. Du côté employeur, je vous ai dit, on a trouvé des contrats, mais des contrats où on ne comprenait rien. Le contrat était visé par le service de l'ONEM. Et j'ai posé des questions en tant que technicien. Est-ce que vous avez la convention collective? Non. Est-ce que vous avez la classification générale des emplois? Non. Et tout ça, c'est ça que nous appelons les documents relatifs à la situation de la main-d'œuvre.
Et ce gestionnaire n'a pas travaillé avec des techniciens congolais pour l'éclairer en matière d'emploi. Comment ça se passe en RDC?
Bon, d'habitude, dès que vous ouvrez une institution, vous devez venir au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. C'est là où on vous dira, voilà ce qu'il faut faire pour la main-d'œuvre nationale. Mais le monsieur est allé intéresser une maison. Je n'entre pas sur ça, parce que cette maison, chez nous, on ne connaît pas cette maison. Si nous voyons la loi parle...
Donc une maison fictive.
Bon, si c'est fictif, en tout cas ça, je n'ai rien à dire là-dessus.
Mais qui n'existe pas selon vos propos.
Ah, moi... Bon, ok, ça existe, mais il doit avoir des documents. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore présenté les documents à la commission. Nous sommes en train de rassembler la documentation des parties.
Alors, vous avez évoqué l'ignorance de la loi du côté du gestionnaire. Qu'en est-il du côté des travailleurs?
Du côté des travailleurs, c'était même. On a posé des questions. Comment on vous a présenté les contrats sans lire? Il dit non, l'employeur est venu nous présenter les contrats et directement on a signé. J'ai dit non, l'article 44 du Code du travail stipule de la forme et de la preuve du contrat de travail. Qui stipule, le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties d'adopter pour autant qu'il comporte les dénonciations visées à l'article 102. Et dès que vous signez le contrat, dès qu'on vous donne le contrat vierge, la loi dit, dans 48 heures, vous remettez une partie du contrat au travailleur pour qu'il prenne connaissance. S'il est d'accord de ce contrat-là, s'il n'est pas d'accord, il ne signe pas, il part.
Soit dit en passant qu'il doit être dans les conditions morales et psychologiques, sans être sous pression pour...
C'est justement ça, monsieur le journaliste. Alors j'ai dit, mais vous ne pouvez pas signer un contrat comme ça. Nous avons dit, bon, ça va. Dans tout ça, nous allons voir ça quand le vice-premier ministre va signer un arrêté convoquant la commission. Voilà, nous sommes maintenant au niveau où, en date du 30 juillet 2016, le vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale signe un arrêté numéro 081 portant création, organisation, fonctionnement et nomination des membres de la commission tripartite de règlement du litige opposant les travailleurs de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa aux gestionnaires.
Alors à ce jour, où est-ce qu'on en est par rapport au travail de la commission? Qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Cette situation va-t-elle être débloquée? Où est-ce qu'on en est?
Bon, on a commencé la commission. Il y a de cela 3 semaines, mais arrivé après 3 semaines, la commission était bloquée par l'employeur. L'employeur ne se présentait pas à la commission.
Merci, monsieur l'inspecteur général. Je reviens à vous tout à l'heure. Très rapidement, terminez votre propos.
Mais, en date du 26 août 2016, le vice-premier ministre chargé de l'emploi et travail, il rappelle à l'ordre aux gestionnaires que nous devons reprendre la commission ce mercredi. À 14h.
Demain donc.
Demain.
Voilà. Polydor Tangeli, vous êtes expert en matière du travail et secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Vous avez suivi, monsieur l'inspecteur général, tout à l'heure du travail, et monsieur Évariste Bayedi, représentant du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Comment vous analysez cette situation?
Merci Alain, merci pour l'invitation. Au niveau du groupe Mossala, nous, comme vous le savez, nous faisons de la valorisation des ressources humaines notre cheval de bataille. Et une problématique telle que celle qui prévaut au niveau de l'hôpital du cinquantenaire nous intéresse à plus d'un titre. Notre analyse de cette situation, nous l'avons fondée sur base du cadre légal, notamment au plan international. Nous avons confronté la situation aux recommandations 188 sur les agences d'emploi privé qui a été mise en place depuis 1997, la résolution 135, tout comme la résolution 092, mais aussi nous avons confronté la réalité au cadre légal national, notamment les codes du travail, en son article 40 et 41 qui parle de la nature du contrat. Bref, nous avons aussi essayé de faire une analyse organisationnelle de la chose. Et ça nous pousse à comprendre qu'il se pose un sérieux problème de fonctionnement de nos structures. Je rappelle ici que l'hôpital du cinquantenaire n'a pas été construit en cachette. C'était un investissement qui a connu une très bonne communication, hein, une communication. Il a été bien vendu
au plus haut niveau.
Au plus haut niveau. Mais on se rend compte qu'en amont, si on s'est investi sur des questions relatives à l'importation des matériels, à la qualité des matériels du secteur tertiaire en médecine, notamment le capital humain qui devait se charger de produire et de donner la valeur à tous ces instruments qui sont venus, a été négligé. Et c'est ici l'occasion de souligner qu'il se pose un sérieux problème de la proactivité des institutions étatiques, puisque tel que l'inspecteur général est là, il ne pouvait pas attendre que l'investisseur vienne. Il a aussi l'obligation d'aller
vers
tout celui qui vient opérer dans le secteur de l'emploi. Et que cela passe inaperçu, ça pose des questions. Puisqu'au fait, il y a 2 ans, nous avons débattu ici de la problématique de la redynamisation de l'inspection générale du travail, qui a des problèmes de fonctionnalité, tant au plan de l'efficacité que de l'efficience. Puisque si vous questionnez aujourd'hui le budget des fonctionnements de l'inspection générale du travail, il se pose un sérieux problème.
Il est modique.
Donc ça, c'est d'abord au niveau de la fonctionnalité des structures. Mais aussi, nous comprenons à travers ceci que notre État ne s'accommode pas aux nouvelles réalités. Puisqu'au fait, on parle d'un établissement public qui devait avoir à son sein des fonctionnaires de l'État. Mais l'établissement est mis en place dans un partenariat public-privé. Et le partenariat public-privé a des réalités telles que le privé a une certaine prépondérance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour autant qu'on a attribué la gestion de l'hôpital au privé, et ça pose un problème de mariage des textes. Ça fait encore appel ici à la problème de la sous-traitance et de la sous-entreprise. Vous vous rappelez que cette on me parle d'une société de gardiennage. C'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave.
Donc, un personnel médical qui est engagé par une société de gardiennage.
C'est une aberration. Donc, il y a un effort à fournir au niveau de la réglementation pour que cette déconfiture, ces méli-mélo, ne puissent pas contribuer à la dévalorisation du personnel congolais en plus. Au fait, ici, l'analyse que nous faisons, sur base de notre expérience dans le monde du travail, nous constatons tout simplement qu'il y a une transplantation. Il y a un élan de transplantation des mentalités observées dans le secteur de commerce par les employeurs étrangers dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, si vous allez dans les magasins qui sont ici, qui sont tenus par plusieurs des expatriés, je ne fais pas la xénophobie, mais c'est la même réalité qui s'est traduite.
Le traitement est le même.
Exactement. Donc, il se pose un problème de la gestion de l'employeur étranger au Congo, puisque nous constatons à ces niveaux, au niveau du groupe Mossala, qu'il n'y a pas un élan de valorisation des ressources humaines.
Merci, Polydor. Évariste Bayedi, nous allons prendre pour vous cette réaction.
Kevin Ikoka, j'appelle depuis Kinshasa. À mon avis, la question fondamentale qu'on peut se poser est celle de savoir à qui appartient la propriété de cet hôpital. Car un service public sous gestion des privés doit normalement rester sous le contrôle effectif de la personne qui l'a créé, c'est-à-dire l'État. L'État congolais a tout intérêt de sauvegarder l'emploi de ses citoyens et ce serait donc un paradoxe quant au constant sa réticence vis-à-vis de ses agents. Il semble même que ces indiens gestionnaires de cet hôpital n'ont même pas de compte à rendre auprès du gouvernement. Ce qui me laisse croire que le contrat de concession qu'il y a entre le gouvernement et ce groupe d'Indiens n'est qu'un acte apparent et qu'il y aurait eu un acte de vente caché.
Évariste Bayedi, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion?
Merci beaucoup. Je pense que l'auditeur a tout compris. Sa question fait appel directement aux clauses du contrat qui lie la maison. On ne va pas dire tel cœur le gouvernement congolais. Mais là, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise pour parler de ça parce que quand on a signé ce contrat, moi, je ne suis pas là. Moi, je parle exactement du problème qui intéresse les conflits qui nous opposent avec les gestionnaires. Donc, j'aurais bien voulu que ce soit un membre du ministère de la Santé qui soit là pour répondre à ça. Voilà. Effectivement, il a compris. C'est en fait ceux qui suivent l'évolution de la situation de loin. Il a compris réellement qu'il y a un problème de contrat. Mais je dois le rassurer pour lui dire que nous avons vu l'arrêté, sinon pas les décrets qui instituent le travaux ou bien le fonctionnement de l'hôpital. C'est un établissement public. De ce côté-là, il n'y a pas de doute. Mais quand il s'agit des termes, des clauses,
un établissement public, mais géré par des Indiens.
Alors, on nous a parlé d'un partenariat public-privé, gagnant-gagnant. Mais à ce jour, il y a de quoi se poser des questions s'il y a ce partenariat et gagnant-gagnant. Vraiment, c'est vraiment dommage. Tout ce que je peux dire à ce niveau, c'est que il faut vraiment que les autorités de ces pays, ou bien ceux qui ont la charge de contracter des différents contrats au profit de la République, réfléchissent. Selon les informations en notre possession, en tout cas, il y a un problème sérieux dans la signature de contrat avec les partenaires extérieurs. Voilà.
Alors, il semblerait, d'après des sources sûres, qu'à ce jour, l'hôpital du cinquantenaire fonctionnerait avec des journalistes. Est-ce que vous confirmez cette information?
Monsieur Alain, je vous confirme cette information. Parce que à l'hôpital du cinquantenaire, nous apprenons des mots nouveaux. Hein. Vous savez que nous autres, nous avons de l'expérience dans le monde médical. Il y a des mots nouveaux. Nous avons espéré acquérir une expertise, entre parenthèses, indienne. Mais nous avons appris des mots nouveaux, du genre journalier à l'hôpital. Un sous-traitant, c'est des termes qui n'existent pas. Vous savez, un hôpital, ce n'est pas un magasin, hein. Ce n'est pas une industrie de fabrication de whisky, ce n'est pas un shop ou bien un supermarché. Un hôpital a un statut. Et dans l'hôpital, entre soignant et soigné, il y a une relation de confiance.
Il y a des normes, il y a des principes qu'il faut respecter. Et ces journaliers ont quelle expertise?
Vous savez que l'hôpital du cinquantenaire a été équipé par le gouvernement congolais. Nous qui avons travaillé il y a 2 ans et demi, nous avons eu un temps d'adaptation avec l'équipement. À ces jours, nos frères, médecins, infirmiers, je sais pas moi, qui sont employés comme journaliers, vous voyez le sens péjoratif du terme, ils ont du mal. Aujourd'hui, l'hôpital du cinquantenaire fonctionne sans aucun service de laboratoire. Et vous savez que le laboratoire est la base du diagnostic au niveau de l'hôpital. Et vous vous imaginez sur base de quels résultats aujourd'hui nos frères qui sont internés à l'hôpital du cinquantenaire, c'est-à-dire il y a ce que nous appelons les effets placebo, c'est-à-dire vous avez un résultat imaginaire par un laboratoire et nos frères malheureusement sont soignés sur base de ça. Et tous les laborantins, tous les médecins, tous les infirmiers, tous les ingénieurs, ils sont dehors.
Et donc cette situation, en fait, elle met le malade déjà en grand danger de mort.
En tout cas, la première victime dans cette situation, ce sont nos malades, qui sont malheureusement nos frères. Parce que les gestionnaires ne veulent pas comprendre ça. Et ils nous donnent l'impression que ça ne lui dit absolument rien. Quand nous sommes en train de crier et nous demandons l'implication totale de nos autorités, c'est pas par hasard. Parce que les premières victimes, ce sont nos frères et sœurs congolais à qui on a promis l'amélioration de la situation sociale. Malheureusement, les partenaires qu'on a emmenés, ils s'en foutent totalement. Tous les rappels à l'ordre, vous avez vu monsieur l'inspecteur qui est un expert en matière de travail, qui l'a parlé, il reste vraiment sourd à tous les rappels à l'ordre, à toutes les instructions données, ce qui est très malheureux.
Alors, si le gestionnaire reste sourd à tous les appels, comme vous le dites, est-ce qu'il y aurait des pressions politiques qui pèseraient sur ce dossier?
Monsieur Alain, je vous rappelle une fois de plus que moi, personnellement, je suis très mal placé pour parler de la politique. Nous sommes en train de faire aussi la lecture des choses comme vous et moi. Je parle ici au nom du personnel de l'hôpital du cinquantenaire, c'est-à-dire ce personnel qui est à ses jours chassé dehors, parce qu'il faut peser le terme c'est chassé, au mépris de toutes les normes qui régissent la profession et toutes les démarches. Merci. Ici, je profite de saluer l'initiative prise par son excellence monsieur le vice-premier ministre Willy Makiachi, qui dès sa descente, il a pu cerner en un temps record le problème en instituant la commission. Alors, la commission qui, aujourd'hui, monsieur l'inspecteur général l'a dit, qui tourne en ralenti, mais on aimerait vraiment voir l'aboutissement des travaux de la commission. Donc voilà.
Merci. Monsieur l'inspecteur général du travail, Oswald Manwana, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Les Indiens sont accusés pour rien dans cette affaire, car l'hôpital n'appartient pas aux Indiens, mais plutôt aux Congolais, géré par le gouvernement congolais, mais supervisé par les Indiens. Et si les infirmiers qui ont des matricules du gouvernement sont maltraités, malgré qu'ils ont signé le contrat avec le gouvernement, ne voyez-vous pas que les Indiens se comportent ainsi? C'est là par respect des accords qu'ils ont signés avec le gouvernement sur la gestion de cet hôpital. Sinon, le gouvernement devrait s'imposer pour trouver la vraie solution, car cette situation ne date pas d'aujourd'hui.
Monsieur l'inspecteur général, j'ajoute la réaction de John Kamangu de Kinshasa, qui va un peu dans le même sens, qui dit que la situation que vivent nos compatriotes a pour responsable notre gouvernement, qui par son inaction, sa passivité et son inexpérience, son inexistence, pardon, dans le suivi d'application des lois et règles du travail en RDC, favorise le mauvais comportement de ces sujets indiens dans cet hôpital. Polydor Tanguéli l'a également dit.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que je vous ai dit au départ qu'il y a une commission. C'est dans cette commission où nous allons parler de tout.
Qui peine à fonctionner, malheureusement.
Oui, non, ça va fonctionner. Mais on avait un problème dernièrement au CEP Congo. C'était plus difficile. Mais on a réussi. Là-bas, il y a la paix sociale. Je viens de Lubumbashi, à la Jekamine. Il y avait un dossier très brûlant. Nous venons de réussir. Il y a maintenant la paix sociale. Comment à l'hôpital cinquantenaire, nous les techniciens, d'ailleurs le vice-premier ministre chargé de l'emploi, et moi les techniciens, nous ne pouvons pas réussir. Non. Oui. On nous met que ces Indiens, que les gestionnaires rentrent à la table des négociations.
Visiblement, ils ont des poids lourds derrière
non,
eux.
Non, moi, ce problème-là de poids lourds, ça ne me regarde pas. Je suis venu ici.
Qui pèse dans les négociations.
Et je vois que le vice-premier ministre chargé de l'emploi, vous le connaissez très mal, hein. Vous le connaissez très mal, c'est un grand bulldozer, hein. Quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Et il a écrit la lettre que je viens de vous lire, le 26 août, où il demande aux deux parties de regagner la salle demain.
Et donc le bulldozer va permettre aux travailleurs de faire respecter leurs droits.
Mais oui, nous allons appliquer la justice, ça veut dire le code du travail.
Et si demain le gestionnaire ne se présente pas à la table qu'est-ce qui va se passer?
Ah mais il y a des mesures, c'est prévu dans notre code du travail.
Notamment
quoi?
Mais on parmi peut les mesures.
Par exemple, on peut lui retirer la carte du travail pour étranger. Et c'est fini, il rentre chez lui.
C'est possible, monsieur Baillé, dit à vos côtés, n'est pas d'accord, il hoche négativement à la tête.
Mais non, il n'est pas technicien. Nous avons des stratégies de travail.
Et donc le retrait de la carte, c'est une mesure sérieuse,
oui, c'est sérieux.
Une pression énorme sur la tête du gestionnaire.
C'est un exemple que je viens de vous donner.
Ah oui, mais monsieur l'inspecteur général Polydor Tangeli l'a dit, il y a des Indo-Pakistanais qui sont dans le commerce ici, qui abusent, qui font des abus connus et au vu et au su de tout le monde, ils n'ont jamais été sanctionnés.
Ah, ça, en tant qu'inspecteur général, je ne suis pas au courant de ça, mais quand les dossiers...
Mais du moins, c'est la réalité
oui,
sur le terrain.
Quand les dossiers nous arrivent, on traite, et les Indiens se présentent dans notre institution, ils viennent, ils répondent aux invitations.
Alors, il y a Falaris Yuma Muyungwa qui dit c'est une situation déplorable pour les Congolais. Dans un autre pays où le droit de travail se fait respecter, ces choses ne peuvent jamais s'observer. C'est une disposition qui réduit la force des réclamations des travailleurs qui se voient toujours démissionnaires à tout moment, malgré leurs mauvaises conditions de travail. Je prends également cette réaction de Jimmy Nils Pambi qui nous écrit de la Belgique. Quelle est la réaction du gouvernement par rapport à cette situation? Ceci démontre l'incapacité de gérer les institutions. Par ce moment, l'hôpital dont on dit qu'il est l'hôpital phare du pays, peut-il être dirigé par des expatriés? C'est comme si vous remettez l'aéroport ou une chaîne nationale entre les mains des expatriés. On ne sait pas si c'est le cas. C'est anormal. Que dit le gouvernement? C'est vraiment triste, monsieur l'inspecteur général. Qu'est-ce que vous répondez à ces compatriotes?
Bon, je vous ai dit ceci, que nous sommes en négociation. Le vice-premier ministre a signé un arrêté pour que le parti vienne aux tables de négociation. Nous avons bien commencé. Nous sommes arrivés au moment où le parti nous donnait de la documentation pour commencer le travail. Et nous avons tout un tas, toute une pile de documents. Et tout d'un coup, la commission...
Une partie ne vient plus.
Une partie ne vient plus. Et c'est pour cela que le vice-premier ministre a écrit, l'objet de la lettre, rappel à l'ordre. Et il m'a demandé que demain, la commission doit siéger les deux parties, le travailleur et l'employeur.
Alors, Polydor Tangeli a évoqué un élément important. Est-ce que l'État congolais n'a pas pu s'adapter aux nouvelles réalités, notamment en termes de partenariat public-privé?
Bon, là, moi, je suis technicien, monsieur le journaliste. Je suis venu ici pour répondre à la loi. Les problèmes de
gérance... Alors, que dit la loi?
La loi dit quoi? Quand il y a conflit du travail, ça c'est un conflit du travail de l'employeur et le travailleur. C'est un conflit du travail général. Et maintenant il faut réunir le parti. C'est bien dit dans les codes. C'est bien dit dans les codes. Donnez-moi 2 minutes. Et c'est l'article 303. Qui stipule et répété conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, portant sur les conditions de travail. Merci. Lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale.
Merci, monsieur l'inspecteur général. Polydor Tangeli, à propos de cette réaction qui nous vient de Kananga.
Freddy Tshibwabwa à Kananga. Moi, je trouve que c'est bien pour que l'État congolais tire une leçon de morale à ce sujet. Car dans ce pays, l'État congolais néglige les fonctionnaires de l'État presque sur tous les domaines. Aux infirmiers et médecins, qu'ils respectent leurs serments faites pour sauver la vie humaine que de faire le contraire.
Alors, Polydore, à ce niveau-là, n'y a-t-il pas également un paradoxe entre le serment pour sauver la vie et les conditions de travail de ce médecin qui ne sont pas respectées?
Au fait, Alain, ça se lit. J'ai prêté le serment de sauver les vies dans des conditions bien précises. Et si les conditions ne sont pas réunies, il se pose un sérieux problème. En tant que psychologue, je suis passé observer tous ces travailleurs qui font les sit-ins sous le soleil. Il y a une nécessité de prise en charge psychosociale de toutes ces personnes qui se sentent dépersonnalisées pratiquement. Ils ont la volonté. Et je félicite ici le fait qu'ils ont la volonté de travailler, mais pas dans les conditions telles que décrites ici. Ils sont chaque jour sous le soleil et je pense que sous d'autres cieux, on aurait, et nous au niveau du groupe Monsala, nous envisageons comment les prendre en charge au plan psychosocial. Alain Irung, nous sommes ici en face d'un problème de faire un travail bien fait et fini. L'hôpital du cinquantenaire, c'est une de grandes réalisations, mais on sent qu'au niveau de la finalisation, au niveau des petits détails, il s'est posé un problème. Puis-je encore rappeler ici que l'ordre de médecins avait porté plainte à son temps, disant qu'il y avait des médecins indiens qui prestait sans numéro d'ordre. Vous voyez? Donc ici, nous plaidons pour la valorisation des ressources humaines. Il faut pas qu'on ait des infrastructures de haute facture avec des hommes négligés, des hommes déshumanisés qui y travaillent. Il n'y a pas de paradoxe. Je pense qu'ici, il faut valoriser le personnel qui pose un problème réel.
Pour lui permettre de respecter son serment.
Pour lui permettre de respecter son serment, exactement.
Alors, l'hôpital est en train, en ce moment, d'employer des journaliers. Ne sommes-nous pas en train d'aller lentement mais sûrement vers la rupture des contrats de ceux des grévistes?
Mais là, nous irons de problème en problème. Faut-il encore savoir la nature de ces contrats, puisque dans le Code du travail, à l'article 40 et 41, on parle du contrat à durée déterminée au jour le jour. Comment ces gens prestent dans ces services? Ici, j'interpelle aussi l'inspection générale du travail, qui a une deuxième question dans ses mains, de voir tous ces gens, puisqu'aujourd'hui, l'inspection générale du travail doit faire preuve d'une certaine proactivité. On parle de journaliers, en réalité, ils devaient aussi questionner comment ces journaliers sont entrés, ils sont liés à l'entreprise, de quelle manière, puisque au cas d'une faute disciplinaire, comment la chose sera traitée. Là, c'est un sérieux problème. Donc, je pense ici, il faut accélérer la négociation, telle que l'inspecteur général l'a suggéré, et comme le VPM l'a aussi dit, mais revenir sur des nouvelles bases. Pas des nouvelles bases qui vont opter sur la cassure, mais des nouvelles bases qui vont promouvoir un dialogue et une sorte de conciliation ou de réconciliation même entre l'employeur et le travailleur.
Alors, vous en tant que psychologue du travail, comment vous comprenez le fait qu'une des parties, notamment le gestionnaire, puisse ne plus venir à la table des négociations? Comment vous interprétez ça?
Bon, nous sommes outillés.
Y a-t-il des poids lourds derrière? Y a-t-il des pressions politiques?
Bon, nous sommes outillés en matière de résolution de conflits et je sais qu'une des parties peut avoir des dispositifs tampons, hein, pour essayer de dissuader ou de d'amener l'autre à perdre de l'élan dans le processus de négociation. Mais ça fait partie des négociations. Ça ne peut nullement décevoir la partie gouvernementale, ni encore la partie travailleresse. C'est ça mon point de vue. Je ne sais pas faire de la politique en disant il y a de poids lourds derrière, surtout que en tant qu'expert. Donc je vois que c'est une technique, un dispositif tampon que chaque
partie prenante aux négociations peut utiliser, les politiciens les utilisent dans leurs négociations, tout comme les employeurs et les travailleurs. Et c'est des bonnes guerres, normalement.
Monsieur l'inspecteur général, je reviens à vous. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. J'aimerais avoir des réponses assez brèves. L'hôpital est en train d'employer des journaliers. Est-ce que le gestionnaire ne serait pas en train d'ajouter un problème sur un autre?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je répète encore, l'arrêté qui a été signé par son excellence, à son article, chapitre 2, article 3, de mission qui nous a chargé. Je peux lire ça?
Allez-y, très rapidement.
A. Créer un cadre de concertation en vue de trouver des solutions par voie de négociation aux différents litiges opposant les deux parties. B. Élaborer un projet de la convention collective prenant en compte les desiderata des travailleurs et des gestionnaires. C. Organiser les élections syndicales dont les délégués élus signeront par mandat de représentation la convention collective. D. Déterminer et respecter l'exécution conformément au code du travail en vigueur dans notre pays. Les conditions générales du travail, notamment la signature de contrat de travail, la classification des emplois, le salaire, l'horaire de travail, etc., etc. E. Examiner toute question lui soumise par l'une des composantes de la tripartite pouvant recourir au règlement du dit litige. C'est ça notre mission.
Voilà. Alors, en guise de conclusion, monsieur l'inspecteur général du travail, qu'est-ce que vous dites à tous ces travailleurs qui sont en train de vous suivre en ce moment et qui, à un certain moment, se sont dit que le silence du gouvernement était soit complice ou coupable?
Monsieur le journaliste, si le gouvernement ne disait pas un mot, le vice-premier ministre n'écrira pas de lettre. Et je demande aux gestionnaires de respecter la lettre du vice-premier ministre du 26 août 2006, où il demande « Nous reprenons demain à 14h les négociations et je demande aux gestionnaires de reprendre les travailleurs au travail, de demain matin. »
Et donc vous garantissez à ces travailleurs qu'ils verront leurs droits respectés jusqu'au bout?
Ça sera respecté à la commission. C'est un grand travail. Comment une entreprise sans convention collective? C'est là où on doit mettre la bonne marche de l'entreprise, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général du travail, Oswald Manoana. Vous êtes également président de la commission de suivi de conciliation. Évariste Bayedi, est-ce que vous pensez que ces négociations vont aboutir?
Merci beaucoup. Nous avons foi aux négociations engagées par le gouvernement congolais, parce que si on n'y croyait pas, on n'allait pas s'engager. Alors, je voudrais un peu revenir un tout petit peu par rapport au fait qu'ils avaient bougé la tête lorsque le monsieur l'inspecteur général parlait. C'était sur le fait qu'il devait être tranquille, parce que le monsieur de qui il attend la présentation de la carte de travail, il n'en a pas. Voilà. Monsieur l'inspecteur général est conscient qu'il lui a demandé ça pendant les travaux de la commission. Il n'en a pas. Alors, moi je voudrais demander à l'inspecteur de travail de nous aider. Parce qu'il venait de citer ici toute une liste d'entreprises où ils ont trouvé des solutions. Nous aimerions vraiment que cette solution soit trouvée.
Et qu'elle soit durable.
Parce que comment voulez-vous? J'ai aimé l'intervention de notre expert là par rapport à la prestation des différents serments et ainsi de suite. Vous savez, il a souligné quelque chose de très important, c'est que quand vous prêtez serment, il faudrait que vous soyez dans les conditions de pouvoir réaliser ces contrats-là. Donc, comment pouvez-vous imaginer qu'un médecin de l'hôpital du cinquantenaire, gynécologue en pleine césarienne, soit déguerpi par les gestionnaires de l'hôpital tout simplement parce qu'il est congolais? Comment pouvez-vous imaginer qu'un médecin de l'hôpital du cinquantenaire, en plein tour de salle, en train de consulter son malade, c'est sans déguerpi de l'hôpital, accompagné des éléments de la police de mon pays?
En guise de conclusion, un mot.
Alors, tout ce que nous demandons, c'est comme monsieur l'inspecteur général l'a dit, nous demandons le respect des instructions de l'autorité. Il y a une lettre à laquelle il a fait allusion là. Nous aimerions vraiment dès demain que monsieur le gestionnaire comprenne que ce pays a des lois et il a des responsables. Que nous regagnons nos postes de travail. Simplement, c'est fini pour servir nos frères et sœurs qui souffrent.
Merci, Polydor Tangeli. Conclusion.
Je pense que la solution ne se limite pas seulement à la commission qui a été mise en place. Au-delà de la commission, il faut faire appel à une implication interinstitutionnelle, puisqu'il y a les dimensions économico-financières qui rôdent autour de la question.
Mais je pense qu'ici, l'ambition majeure sera de mettre l'homme au centre de tout investissement. Puisqu'au fait, on privilégie les chiffres d'affaires, on privilégie l'argent.
Et on oublie l'homme.
On oublie l'homme.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver sur radiocapi.net. Merci de votre attention. Au revoir.